Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Fanette Choulier. Bonjour.
Bonjour.
Et Valérie, bonjour.
Bonjour.
Alors Fanette, vous êtes membre du collectif citoyen Sauvons les centres de santé sexuelle qui s'est constitué en début d'année à l'annonce de ces probables fermetures à l'époque de ces centres de santé sexuelle. Et Valérie, vous-même, donc, qui êtes ancienne membre du MLAC, vous allez en parler aussi puisque c'est constitutif à cette loi de la loi Veil hein, pour l'avortement. Et vous êtes ici donc pour peut-être marquer une certaine indignation aussi à cette fermeture effective des centres de santé sexuelle votée le 14 avril par le conseil départemental de la Drôme. Alors, pour cela, je crois que vous, Fanette, étiez présente dans cette salle au moment de la délibération du conseil départemental. Alors, est-ce que vous pouvez nous en rappeler peut-être ou nous rapporter un peu ces instants?
Oui, c'est ça. Alors donc on était en présence du coup lundi matin à Valence du coup à l'hôtel du département où il y avait la réunion donc du conseil départemental pour voter le budget 2025 et donc dans ce budget avec la fermeture des 7 centres de santé sexuelle dans la Drôme et des réductions également de budget pour les plannings familiaux. Donc il y avait une mobilisation du coup devant et on a pu être une petite dizaine à assister du coup au débat dans l'hémicycle. Donc j'en faisais partie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des élus de l'opposition ont présenté, en fait, avant le vote du budget 2025, ont présenté un vœu, en fait, qui du coup venait s'opposer à la fermeture des centres de santé sexuelle. Donc, vœu qui était argumenté, qui était étayé, qui était aussi appuyé et soutenu par notamment l'Ordre des médecins. Et donc, en fait, l'expression de ce vœu a donc donné suite à de longs débats enflammés dans l'hémicycle pour finalement aboutir à un vote où aucun élu de la majorité n'a voté ce vœu. Et donc, la motion a été rejetée. Donc, à ce moment-là, nous, du coup, qui étions des personnes faisant partie des différents collectifs citoyens et mobilisés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur ce sujet, on s'est vraiment sentis très, très indignés, très, très en colère, vraiment dans l'incompréhension. Et donc, on a quitté l'hémicycle en criant un petit peu notre indignation, le fait que c'était vraiment une honte et qu'on se sentait vraiment abandonné et sacrifié sur ces territoires ruraux. Donc ensuite, voilà, nous avons quitté la pièce et le budget a été voté.
Valérie, donc vous-même êtes indignée. Pour cela, on peut peut-être rappeler un peu l'histoire des plannings familiales et aussi de ces centres de santé sexuelle, si vous en avez une connaissance.
Oui. Alors, moi, je suis arrivée dans la Drôme il y a 2 mois. Bon, mais je connais la Drôme depuis 50 ans, donc c'était pas une rencontre nouvelle. Mais j'ai été quand même très surprise de voir centre de santé sexuelle, parce que je m'étais renseignée, justement, pour savoir à quoi ça correspondait. Parce que moi, c'est le planning familial, le MLAC, enfin, tous ces mouvements dans lesquels je me suis insérés et dans lesquels j'ai milité, me disait quelque chose, mais les centres de santé sexuelle, je suis tout de suite allée voir un petit peu ce que ça regroupait, ce que ça signifiait, et je me suis dit, oui, ben voilà, c'est une manière détournée de s'opposer, finalement, à l'avortement. Enfin, d'une certaine manière, ça fait depuis la loi. On se bat. Enfin, moi, je me suis battue même avant, mais on sait que c'est précaire. On sait qu'il suffit d'un changement de gouvernement, un changement de mentalité pour que ça soit remis en question. Et là, j'ai eu tout de suite cette réaction en me disant, c'est pas directement. On s'en prend pas directement à ça, parce que ça regroupe plus de choses, effectivement. Ça regroupe une parole libre. Et ça, la liberté, c'est compliqué à entendre de la part de nos gouvernants. Et donc, je me suis dit, faut que je suis là, maintenant. Donc, il faut que je me batte là-dessus.
Alors, il y a cet aspect de l'interruption volontaire de grossesse qui est prise en compte et qui est prônée à ce moment-là par le MLAC, dont vous étiez membre également. On peut peut-être rappeler, puisque le film, justement, Annie Colère, traite de ce sujet à l'époque, en 73, je crois. Est-ce que vous pouvez amener aussi votre point de vue à ce moment-là? Comment c'était?
En fait, c'était des mouvements. Maintenant, on appellerait ça un mouvement citoyen. Puisque les militants et les militantes, parce qu'il y avait aussi des hommes et il y avait aussi des médecins qui s'étaient engagés avant la création du MLAC, du mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, pour faire des avortements clandestins. Et donc, quand le MLAC s'est constitué, c'était vraiment des femmes et des hommes de tous bords, en fait. Il y avait déjà des militants. 68 n'était pas loin, donc il y avait toujours cette survivance de ces groupes militants. Mais il y avait aussi des gens ordinaires, qui avaient vécu des avortements douloureux, difficiles, et qui s'engageaient dans ce mouvement. Donc, c'était un mouvement qui échappait. Au contrôle, on va dire au contrôle de l'État.
À ces prémices de mouvement de l'époque, il y avait, à partir de 1956, ces fameuses maternités heureuses. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu aussi?
J'étais un peu petite en 1956, donc j'ai...
J'imagine, mais vous avez certainement quelques notions d'histoire sur le sujet.
C'est-à-dire que c'était quand même... une maternité heureuse, c'est une maternité désirée. Donc, ça a toujours fait partie. Effectivement, dans ces années-là, on parlait de ça, qu'on a repris dans les années 70 en disant un bébé désiré, c'est tellement mieux qu'un bébé qui ne l'est pas, un enfant qui ne l'est pas. Et dans toutes les manifestations, il y avait ces pancartes-là. Et je pense que les prémices, effectivement, moi, je pense que c'est même bien avant 56, mais effectivement, ça s'est marqué à ce moment-là. Parce que là, on a commencé à comprendre qu'il y avait vraiment des gens qui s'engageaient pour lutter contre cette loi de 1920 qui était absolument épouvantable.
On peut rappeler cette loi
C'était une loi, on va dire, c'est toujours les émanations de la politique de Vichy, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il fallait repeupler la France, il fallait des enfants, l'avortement était un crime. Je pense que la plupart des gens, parce que c'est compliqué.
D'ailleurs, de nos jours, il y a un constat aussi d'une baisse de natalité en France. Oui. Est-ce que ça rejoindrait un peu cette notion dont vous parlez de l'entre-deux-guerres également?
Mais je pense que cette survivance cette mentalité, elle est toujours là. Moi, je vais peut-être déborder légèrement du sujet, mais quand on sait que, sous le régime de Pétain, on a quand même interdit les herboristes, l'herboristerie, qui était quand même, ça échappait à la médecine officielle et puis à la pharmacie aux pharmaciens qui étaient quand même les électeurs de Pétain à l'époque. Donc ça s'est inscrit, cette loi. C'est la loi de 1920, mais ça a été renforcé aussi à cette période-là.
On peut parler de
on pourrait parler ça longuement, mais...
De ces faiseuses d'anges, comme on disait.
C'est ce qu'on appelait les faiseuses d'anges. Je ne me suis jamais penchée sur la définition. Ça m'a toujours paru très joli par rapport à ce qui se passait réellement. Et ça existait de tout temps. même au début du siècle, même avant cette loi, puisque cette loi de 1920 a été mise aussi en place parce qu'on savait que dans les villes ou dans les campagnes, les femmes, de toute façon, elles se débrouillaient pour ne pas avoir d'enfants. Donc, il y a eu que ça se faisait de façon évidemment clandestine, avec la voisine, que les femmes elles-mêmes pouvaient s'avorter d'ailleurs, et qu'il fallait régir ça, fallait une loi. Mais celle de 1920 n'a pas été la plus permissive, on va dire.
Je me tourne vers Fanette. Par rapport à ces centres de santé sexuelle, il y a notamment donc cette problématique d'une grossesse non désirée, mais il y a aussi la jeunesse qui rentre dans la vie et pas forcément avec les connaissances nécessaires. Et ça, c'était le rôle aussi du centre de santé sexuelle, d'éduquer ou d'informer aussi les droits et les possibilités de l'adolescent ou de l'adolescente à affronter ces difficultés amoureuses ou même physiques parfois. Alors vous-même peut-être, Fanette, est-ce que vous avez été usagère de ce service ?
Alors moi, je suis plus vraiment une adolescente, mais j'ai été usagère de ces services, notamment sur tout le pan des dépistages, en fait, parce qu'il y a aussi tout ce versant santé sexuelle en termes de dépistage, de IST, de MST. On sait actuellement qu'en 2025, il y a une recrudescence des IST et des MST en France, donc ça me paraît vraiment aberrant aussi de couper l'herbe sous les pieds des endroits qui prennent à cœur ce sujet, notamment en termes de pouvoir aller de manière gratuite, de manière anonyme, rencontrer une médecin, pouvoir échanger autour de la contraception, autour de la protection, pouvoir, comme vous le disiez, proposer des actions aussi d'éducation, de prévention, des actions collectives auprès des jeunes. Donc, tout ça dans un territoire rural tel que, donc là on est à Die, donc on va parler du CSS de Die, qui est le fait d'ôter ce CSS rend en fait l'accès à tout ce domaine de prévention, de santé sexuelle et d'éducation aussi à tout ce qui est vie relationnelle, affective et sexuelle, notamment chez les jeunes, notamment chez les adolescents, adolescentes. Il y a aussi une conseillère conjugale qui était au centre de Die et donc qui permet, comme vous le disiez, aussi d'échanger, de pouvoir aussi, pas seulement sur les adolescents et adolescentes, mais en fait toutes les personnes qui peuvent subir des violences intrafamiliales, conjugales, sexistes, toutes les personnes issues de minorités qui peuvent vivre des discriminations et qui peuvent avoir besoin en fait d'un espace safe, d'échange anonyme. Donc ça, c'est tellement précieux, en fait, en zone rurale. Et quand on voit l'augmentation des violences, l'augmentation des IST, des MST, tous les débats actuels, tous les procès, je pense notamment au procès Mazan, qui mettent en avant les problématiques sociétales et systémiques autour du consentement et de la culture du viol, je trouve ça vraiment indignant qu'on puisse priver des territoires ruraux de l'accès libre, facile, aisé à ces lieux précieux que sont les CSS.
Et de proximité.
Sachant qu'à Die, c'était déjà quelques demi-journées par semaine, etc. On n'était pas non plus sur une... on était déjà sur un accès qui était limité sur certains plages horaires.
Il y a donc cette fermeture qui concrétise donc une privation pour la jeunesse de ces informations nécessaires. Madame la présidente du département, donc, elle indique qu'il y a cette possibilité d'être accueillie dans les plannings familiales. Est-ce que ça, c'est possible à Die ? S'il en existe un, je crois bien.
Et, il n'y a pas de planning familial à Die. Et dans le budget 2025, alors madame la présidente dit ça, et en même temps, coupe de 20% les subventions des plannings familiaux dans la Drôme.
Oui, les 11.
Donc, comment supprimer des CSS, rediriger les gens vers des endroits qui vont avoir moins de moyens.
Et aussi, elle l'indiquait aussi, de destiner cette jeunesse aussi vers les hôpitaux.
Oui.
Pour, et ce qui n'est pas le cas, oui, certainement, Adi non plus.
Oui.
Donc, ce que je voulais savoir, concrètement, qu'est-ce qui est proposé à votre connaissance en substitution de cette disparition?
Eh ben, du coup, ce qui a été nommé dans le conseil départemental, c'est effectivement de pouvoir dire, eh ben, il va y avoir les hôpitaux, il va y avoir les plannings, il va y avoir les CMS, les centres médico-sociaux. Sachant que voilà, il y a des réductions budgétaires, les CMS ne sont pas spécifiques à la santé sexuelle, donc n'assurent pas spécifiquement les mêmes missions. Et après, on a pu entendre aussi dans l'hémicycle des paroles assez choquantes du type « De toute façon, quand un endroit ferme, les personnes se débrouillent et font autrement ». C'est des paroles qui ont été déposées. On a pu entendre « Les jeunes d'aujourd'hui sont plus dégourdis que ce qu'on pense et aujourd'hui, avec les téléphones et les réseaux, ils trouvent leurs solutions par eux-mêmes ». Donc il y a aussi une forme comme de dénégation du besoin des personnes et de « débrouillez-vous » en fait.
« débrouillez-vous », est-ce que ça vous met la puce à l'oreille?
Oui.
Est-ce que, quelles sont les possibilités selon vous?
Oui. Alors moi, ça, je trouve ça effectivement effarant, quoi, de pouvoir... J'ai même entendu aussi, il y a aussi les pharmaciens qui peuvent aider. Alors, je veux dire, un hôpital déjà débordé,
une pharmacie envahie,
voilà. Et puis, c'est pas le lieu où on va parler, où on va se dévoiler, où on va se confier.
Avec une file d'attente de 10 personnes derrière.
Voilà, voilà. Et puis même chez un médecin, puisqu'il y a 10 minutes, un quart d'heure, c'est minuté, donc c'est absolument pas possible. Donc oui, et je pense justement que ces mouvements... C'est juste une petite parenthèse par rapport au MLAC. C'est vrai que c'était une manière de se débrouiller, de s'organiser de façon militante, en imposant et en disant ce qu'on était en train de faire. Donc c'était une... Mais bon, c'était une période aussi... Il y avait ces mouvements possibles. Là, maintenant, c'est quand même très... très cadré, très... On est beaucoup plus dans la légalité... Donc, moi, je pense aussi par rapport à des jeunes qui j'ai entendu, et ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a fait plaisir en même temps, c'est que ces mêmes personnes qui vont dire les jeunes peuvent se débrouiller sont les mêmes qui critiquent parce qu'ils sont toujours sur leur portable et leur, ils ont dit, j'ai entendu deux jeunes dire, justement, un centre comme ça, quand on est sur nos réseaux, on est seul. On se débrouille par nous-mêmes, mais on ne sait pas si on a raison, on ne sait pas qui dit la vérité, on ne sait pas. Tandis que là, c'est un lieu d'accueil et d'écoute, quoi. Et c'est pour ça que ça me paraît très important, effectivement, que ça continue à exister. Parce que, ce que tu as dit me paraît... Enfin, c'est scandaleux, quoi. Pour moi, c'est un scandale. Un scandale d'État, je dirais. Oui.
Il y a aussi... un autre aspect, c'est qu'est-ce qui pourrait être évité pour eux de tomber sur peut-être aussi des personnes mal intentionnées qui pourraient profiter de cette situation pour poser encore plus de problèmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un centre de santé sexuelle,
oui,
sont avec des personnes référentes à surmonter. Quand on veut se débrouiller seul, sur quoi peut-on tomber?
Justement, je pense que ce qui existait et ce qu'on a fait exister, dans les années 70 et un petit peu avant aussi, mais il n'y avait pas de réponse. On nous disait, c'est interdit, les femmes se débrouillaient par elles-mêmes. Donc on n'avait pas de... il fallait s'organiser entre nous. Est-ce que maintenant, c'est possible? Parce que ça va tout de suite apparaître comme quelque chose de clandestin, de... Alors, effectivement, ce que vous dites, vous avez raison, c'est-à-dire que il peut y avoir des gens qui s'emparent de ça, oui. J'espère que c'est une hypothèse.
Ouais, mais c'est vrai que ça existe, et on pense notamment
on en discutait justement avec les personnes du collectif de, en fait, si justement les jeunes doivent, les jeunes et les moins jeunes, en fait, c'est
oui,
vraiment
aussi, il y a les précaires aussi, les gens.
Ouais, et toutes les personnes qui peuvent faire face à des situations liées à leur santé sexuelle sont vraiment des usagers et usagères du CSS. Je pense qu'il y a effectivement une énorme mission de prévention autour des jeunes, mais il y a plein d'usagers et usagères aussi de tous âges qui peuvent avoir ce lieu comme ressource. Mais c'est vrai que si on pense justement, ben tiens, si par exemple je veux me renseigner sur l'avortement, par exemple sur l'IVG, et que je n'ai pas de centre ressources, le plus proche est à 50 minutes en transport en commun, je vais aller sur Internet, à savoir que ben, aujourd'hui, en fait, avec les algorithmes des réseaux sociaux, en fait, les contenus anti-IVG sont ceux qui vont ressortir en premier, et il va falloir, mmh, vraiment, il va falloir vraiment aller comme fouiller dans, je ne sais pas, 3, 4, 5 pages Google pour potentiellement trouver du contenu plutôt pro-choix. On pense, je ne sais pas, notamment à tout ce qui est monté aussi des contenus masculinistes, de ces mouvements, je pense notamment à la série Adolescence, là, qui est actuellement là sur Netflix, qui montre aussi comment, en fait, tous ces mouvements d'extrémisation peuvent s'appuyer sur la souffrance, en fait, de personnes qui sont en manque de réseau, de soutien, d'accompagnement vraiment professionnel et bienveillant, et que c'est dangereux, en fait, que ça contribue à l'augmentation des violences sexistes et sexuelles dans notre société.
Oui, oui, et puis il y a cette gratuité quand même.
Ça, et c'est cet quand anonymat même... dont tu parlais
et
aussi.
Oui. Ça, je pense que c'est très important.
Oui, ça, c'est aussi le respect de l'anonymat, ça, oui, c'est essentiel. Oui. Ce qui pourrait être moins évident maintenant, s'il n'y a plus ces centres de santé sexuelle. Donc, étant à avoir affaire avec un réseau Internet qui proposerait des possibilités, mais ça empêche, ça implique aussi peut-être de se nommer dans ces démarches.
Oui. Oui, et puis même, enfin, vraiment, les centres de santé sexuelle, c'est un endroit rare dans le milieu de la santé parce qu'en fait, vraiment, on ne doit pas donner nos noms, la carte vitale, ni rien du tout. Ouais, en fait, ouais, les personnes sont salariées, on n'est pas sur de la tarification à l'acte, comme par exemple à l'hôpital ou chez les médecins. Et donc tout ça, c'est très très précieux de ne pas devoir... on peut, en fait, pour plein de raisons, X, Y, Z, préférer ne pas donner son identité pour se protéger à plein de moments. Et ça, c'est vraiment rare dans notre monde actuel.
Oui, je suis assez d'accord.
Lors de cette manifestation du 9 avril, je crois, il y avait donc devant la cité scolaire une représentation des opposants à cette disparition des CSS, notamment des adolescents, des lycéens. Vous avez pris leur parole. Est-ce que vous avez peut-être... Peut-on résumer un peu leur inquiétude ?
Alors, j'ai pas beaucoup discuté avec eux. Il se trouve que je me suis retrouvée un petit peu en dehors de ce rassemblement avec un couple de jeunes et bon, qui effectivement m'ont fait part de leur inquiétude. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que se retrouver, c'est ce que dit le garçon, se retrouver sur Internet, et voilà, c'est une chose, mais pouvoir avoir accès à la parole, à l'anonymat et à la présence de l'autre, c'est essentiel pour nous. Donc, moi, ça m'a beaucoup émue, en fait, parce que c'est tellement pas ce qu'on entend habituellement sur les jeunes sont enfermés dans leur réseau, ils regardent pas ce qui se passe ailleurs. Oui, il y en a certainement, et puis il y en a comme des adultes aussi. J'en connais d'autres.
Quand bien même aussi une distance pour se rendre à ces lieux de planning familial ou à un hôpital, cela implique des dépenses supplémentaires qui ne sont pas forcément à la portée des jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de prise en charge quand même de ces transports par le département, ou alors c'est une utopie?
Alors ça n'a pas du tout été évoqué dans le projet. Et des jeunes et des personnes... en difficulté de toutes sortes, quoi, en précarité ou faisant face à des situations d'emprise, de violences conjugales intrafamiliales. Là aussi, le fait de se déplacer peut tout de suite être très compliqué. Donc c'est sûr que le fait de venir comme recentraliser des offres de soins dans les villes plus imposantes de la Drôme et de dire ben de toute façon les personnes peuvent venir à nous, on reste ouvert. Je pense que c'est un petit peu une utopie de se dire que si les personnes veulent venir, elles peuvent venir, parce que c'est pas forcément vrai, notamment quand on parle de santé sexuelle en fait.
Voilà, parce qu'à 10, ça peut prendre une heure. Si ça se passe ailleurs, c'est une demi-journée hein, d'emblée.
Oui,
donc,
oui.
Peut-être aussi une absence dans l'établissement scolaire également.
Oui.
Donc, c'est à se poser si le budget n'a pas été monté par une intelligence artificielle avec des mauvais algorithmes.
C'est vrai qu'on peut se demander parce qu'il y avait notamment... Moi, franchement, j'ai été vraiment... très très choquée du fait que le vœu ait été rejeté, parce que de manière tout à fait rationnelle, il paraissait tellement pertinent. Enfin, c'est-à-dire que là, on parle sur le budget des centres sexuels de la Drôme. On est sur... et ça, du coup, c'est des chiffres du coup, des élus qui portaient ce vœu. Hein. On est sur 0,02% du budget 2025. Donc, on est vraiment sur un petit chiffre, et un élu qui a aussi rappelé à un moment donné que, rappelons qu'en matière de prévention, 1 euro investi dans la prévention fait récolter à terme 10 euros. Donc on en est à se demander effectivement pourquoi ce choix quand l'ordre des médecins s'inquiète, quand des conseils départementaux de sages-femmes s'inquiètent, quand des pharmaciens, des pharmaciennes, quand des collectifs citoyens, des centaines de personnes se mobilisent. Comment se fait-il que face à ces arguments assez logiques, même sur le plan économique, en fait, finalement, comment se fait-il que ce vœu n'ait pas été adopté ? Ou tout du moins repoussé. Il y avait également un élu qui proposait, peut-être aussi s'accorder du temps pour réfléchir comment faire évoluer les CSS pour qu'ils s'intègrent encore mieux dans la stratégie de santé du département, mais ne pas les sacrifier là comme ça tout de suite, mais... permettre au collectif de s'organiser et de réfléchir à d'autres manières, et ben ça non plus, ça n'a pas été accueilli ou validé.
D'ailleurs, c'était justement le peu de fréquentation qui a motivé ces fermetures pour le département, mais on peut savoir aussi par quel cheminement c'est abouti, hein, ce manque de fréquentation, c'est-à-dire avec des non-remplacements de conseillères pour des périodes de maternité, par exemple. Donc, une impossibilité de recevoir en temps et en heure, et ça, c'est peut-être aussi un aspect hypocrite de ce département là-dessus.
Oui, complètement. C'est vrai que les exemples qui étaient souvent donnés, c'était ceux d'un centre de santé où la personne avait été partie en congé maternité et n'avait pas été remplacée. Donc, évidemment, on observe une baisse de fréquentation. Et après, il y avait du coup des personnes en fait qui vraiment travaillent dans ces centres de santé sexuelle qui témoignaient du nombre de consultations qu'elle faisait et qui vraiment se disait, j'en ai entendu une ou deux, qui disaient je ne sais pas comment le département compte. Alors voilà, moi je ne me suis pas plongée en détail dans les questions de comment les comptabilités de remplissage ou pas ont été proposées, mais du coup, les personnes travailleuses des centres de santé sexuelle qui ne se disait ce n'est pas cohérent avec ma réalité parce qu'il y a beaucoup de monde en fait qui vient quand on est là et quand on fait des permanences.
Même a dit, je crois que c'était autour de 450-500 personnes par an, ce qui est quand même assez conséquent.
Oui, sachant qu'on est sur, pour la médecin en tout cas, sur je crois une demi-journée de présence par semaine. Donc, oui. Et la concert conjugale, je ne sais pas exactement, mais on n'était pas sur une présence en temps plein.
Justement, il y a dit, mais aussi sept autres lieux, enfin six autres lieux dans cette même situation. Est-ce que pour le moment, c'est constitué peut-être une, une mise en marche des suites à donner face à ces fermetures? Est-ce que vous avez des liens entre toutes ces contrées?
Eh ben, c'est un enjeu, parce que c'est vrai que du coup, l'action collective, au plus elle réunit de personnes, au plus elle est efficace. Et en même temps, chaque territoire a ses enjeux propres. Donc, il y a des coordinations entre les différents collectifs, les différentes personnes engagées localement sur chacun de ces centres, justement. Et après, il y a des antennes plutôt locales. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu de comment chaque collectif localement porte son projet avec ses enjeux spécifiques, ses ressources spécifiques, etc. Et comment collectivement on vient aussi créer de la cohérence. Mais en tout cas, c'est une volonté et c'est ce qui se fait. Et du coup, là, voilà, ce qui se passe, c'est que là, c'était quand même un coup dur lundi, à savoir que voilà, nous, il y a vraiment des personnes du collectif qui sont en fait vraiment bénévoles à temps plein depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur ce sujet, très très engagées à mobiliser les collectivités, les maires, les élus, à se renseigner, à faire un travail aussi de démontage des arguments, de fouilles, de sources, etc. Pour vraiment avoir de la clarté sur ce qui se passe. Donc vraiment des personnes très très investies en temps plein, vraiment. Et là, voilà, de voir que finalement, le vœu a pu être porté par l'opposition. C'était, on savait pas, en fait, en arrivant lundi, que l'opposition allait présenter ce projet. Donc c'était une super surprise. Et on se disait vraiment, c'est super, en fait, tout ce qui a été mis en place a pu aboutir à quelque chose de concret. Donc là, voilà, il y a un petit peu une déception et un deuil aussi à faire, un repos des troupes qui est nécessaire, mais l'engagement qui va continuer, et là, voilà, sur des réflexions sur quelles vont être les prochaines stratégies, quelles vont être notamment aussi les prochains objectifs, les personnes à mobiliser, les compétences aussi à venir rechercher. Donc voilà, le combat n'abandonne pas, mais là, du coup, avec ce budget qui a été voté, il a besoin de se réinventer et de voir dans quelle direction il va aller. Et voilà.
Alors, il y aura peut-être un coup d'envoi à partir du 29 avril, puisque notre députée Marie Pochon posera une question à l'Assemblée nationale pour ce sujet. Donc, il y aura peut-être une suite à donner.
Et il y aura aussi, oui, je peux préciser, par contre, on sait que la prochaine action, lors de la manifestation du 1er mai à 10, il y aura une table, justement, du collectif. Donc, si vous avez envie de rejoindre, de vous informer, d'échanger, de vous investir ou de soutenir, venez à la manifestation du 1er mai et on aura du coup une table dédiée.
Le collectif, la notion de collectif, donc personne morale, est-ce que c'est reconnu par l'administration comme interlocuteur, ou alors il faut passer par le statut d'association pour avoir justement... parce que ce que je me rends compte aussi, c'est que depuis des années, l'État se défausse sur ses responsabilités ou ses engagements et de se reporter sur le bénévolat, les associations, les collectifs, pour justement se débrouiller, comme vous dites.
C'est pas régi. Enfin, ce qui se passe en ce moment, c'est assez spontané. C'est une réaction, on va dire, normale, viscérale et inévitable dans ce genre de situation. Alors, est-ce qu'il faudrait créer un collectif loi 1900, enfin quelque chose qui soit plus officiel pour avoir accès à, pour pouvoir parler à des interlocuteurs qui vont opposer ce, en disant mais vous êtes qui, vous représentez quoi, etc. Pourquoi pas passer par quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est une réflexion que je me fais. Là. Mais on peut être aussi efficace, offensif, si on est nombreux. Et s'il y a tous les corps de métier aussi, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des médecins, des sages-femmes, des gens. Moi, j'aimerais bien les voir quand même sur le terrain aussi.
Et les parents aussi,
les parents,
peut-être.
Ouais. Voilà, les parents. Et puis faire un appel...
transversal.
Voilà, c'est ça.
Pour rebondir sur ce que Valérie disait, c'est vrai que là, ça m'a touchée quand tu as dit oui, c'est vraiment une réaction viscérale et inévitable. Parce qu'en fait, voilà, c'est surtout en fait ce collectif et ces collectifs un amas de personnes qui se retrouvent dans l'indignation et dans la volonté que de ne pas, entre guillemets, se laisser faire et de ne pas abandonner, en fait, notre qualité de soins en santé sexuelle.
Voilà, c'était par rapport au monde associatif, hein, qui maintenant est tenu de respecter les valeurs de la République, les engagements des valeurs de la République. Est-ce que vous vous sentez vous-même être républicain, même, tout simplement?
Je pense que pour ma part, je saurais même plus vraiment dire ce que ça veut dire. Parce que ce qu'on a remarqué aussi dans l'hémicycle, c'est que du coup, il y avait justement tout ce discours, en fait, républicain qui pouvait être utilisé, finalement, comme repris, avec, voilà, cette notion de département responsable et de solidarité et d'engagement pour l'égalité. Et vraiment, ces mots-là sont utilisés, en fait, pour présenter le budget 2025. Donc, j'avoue que pour ma part, Je saurais pas trop à quel mot me raccrocher, mais plutôt à quelles actions, en fait, quelles actions révèlent véritablement ce qui se met profondément derrière les mots.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Moi, je peux pas dire non plus je suis républicaine ou je le suis pas. Enfin, pour moi, ça a plus de sens. Ça pouvait en avoir à un moment donné, mais tous ces mots sont galvaudés, sont repris, comme la démocratie, c'est pareil. Bon, tout le monde se veut démocrate, et puis, alors, il y a les démocrates d'un côté, puis les voyous de l'autre côté. Enfin, c'est d'une simplicité navrante, on va dire. C'est d'une simplicité navrante. Oui. Donc, non, je pense qu'il y a des hommes, il y a des femmes et des hommes qui se battent pour des... On disait à un moment donné que l'avortement était un juste droit et qu'en fait, on ne le mendiait pas, il fallait se battre pour lui. C'est ça, il faut se battre pour quelque chose d'évident. Et si moi, je trouve ça assez étonnant, d'ailleurs, qu'il y ait eu ce débat, que l'opposition ait fait ce débat à ce moment-là. On peut quand même... Enfin, moi, je me pose des questions sur ce que ça veut dire réellement.
Moi, ça m'a questionné qu'effectivement, sur une séance comme celle-ci, il y ait 45 minutes de débat enflammé sur 0,02% d'un budget en prévention, avec juste avant tout un discours sur comment le département est extrêmement engagé, notamment dans la protection de l'enfance, dans la solidarité, et etc., etc. Donc, ça questionne.
Oui.
Et donc, pour les auditeurs qui souhaitent participer ou concourir à ce soutien, il y a ce rendez-vous donné donc, le 1er mai à 10, lors de cette journée festive, vous aurez une installation pour accueillir et échanger.
Oui, c'est ça. Il y a une pétition qui est en ligne aussi, donc peut-être qu'on pourra mettre le lien. On a déjà, je crois, 16 ou 17 000 signatures. Ça a aussi été mis en avant dans les débats, mais voilà, on se dit que au plus il y a deux personnes, au plus ça peut avoir de poids. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aussi signer la pétition et la faire tourner.
Fanette Choulier et Valérie, je vous remercie toutes deux d'être venues sur Air du Bois pour nous parler donc de ces inquiétudes, de cette fermeture du centre sexuel du Dit, mais aussi des 6 autres de la Drôme. Et malgré tout, je vous souhaite une bonne soirée.
Oui, merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs âmes, porte la vie, porte leur drame. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours sacrée.
tout flamme, tu as servi le corps des femmes. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet. Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, j'incarne la beauté immortelle. Je suis la force irrésistible, la féminité irascible. Ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Mon corps de femme est un palace. Mon corps de femme porte mon âme, porte ma vie, porte mes draps. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagée sans raison. Je veux savoir, savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi mon corps de femme. Le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix.